بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الله. مشي فر لا dernière fois on avait vu certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les vertus de la patience et comment un musulman qui a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala cette qualité qu'est la patience, c'est vraiment quelqu'un qui a reçu un cadeau inestimable, d'une grande valeur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier hadith qu'on avait vu il y a 3 semaines, c'est ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le musulman a vraiment une situation favorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand Allah ta'ala donne à un musulman un bienfait et que ce musulman remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne action. Et dans l'autre sens, quand Allah ta'ala éprouve cette personne et que cette personne fait preuve de patience dans cette difficulté, mais ça aussi c'est une récompense, ça aussi c'est une bonne action. C'est-à-dire dans les deux cas de figure, quelles que soient les choses qui nous arrivent dans la vie, s'il nous arrive de bonnes choses, c'est ce que nous souhaitons à tout le monde, sachons remercier Allah ta'ala et nous en serons récompensés. S'il nous arrive des petits soucis de la vie ou alors des problèmes beaucoup plus conséquents, alors sachons faire preuve de sabr, de patience, en espérant la récompense de la part d'Allah. Et là aussi, il y aura des thawabs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir de ce hadith, dans 2 ou 3 hadiths qu'on va essayer de voir, bi'idnillah, aujourd'hui, l'attitude et la réaction, l'attitude et la réaction d'une personne éprouvée face à un malheur. On va voir 2 ou 3 cas de figure de personnes. Hein, tout d'abord, c'est Fatima radiallahu anha. Deuxième, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième personnage, c'est une femme, une sahaba, dont le nom n'est pas cité. On va voir 3 personnes différentes qui vont réagir de 3 manières différentes face à 3 épreuves. Qui mène vers la mort. 3 épreuves en relation avec la mort. Le premier hadith, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يترشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه لا جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Dans ce hadith, il est écrit que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم était malade dans les derniers jours de sa vie, il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم souffrait énormément de sa maladie. Le prophète صلى الله عليه وسلم souffrait énormément, on pourrait même dire souffrait anormalement de sa maladie. Et le prophète, dans un hadith, il avait expliqué qu'une fois, il y avait un sahaba qui était venu le voir, le rendre visite. Et le sahaba, il dit au prophète d'Allah, comment cela se fait-il? À travers ta couverture, je sens la chaleur de la fièvre. Il dit, comment est-ce possible qu'un homme puisse être aussi chaud, aussi brûlant lorsqu'il a de la fièvre? Et le prophète m'a dit que nous, les gens proches d'Allah, les anbiya, lorsque Allah nous éprouve beaucoup plus que quelqu'un de normal. C'est-à-dire que si vous avez de la fièvre, vous êtes un tel degré, un tel degré de chaleur, nous les anbiya, lorsqu'Allah nous éprouve par cette même maladie, cette maladie elle est beaucoup plus dure à supporter et les effets sont beaucoup plus conséquents. Et les ulama disent que cela rejoint une règle qui a été illustrée par ce hadith, hadith très célèbre de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Les gens les plus éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont avant tout les prophètes. Et après les prophètes, ce sont les gens les plus proches d'Allah. Et la suite du hadith dit فيبتلى الرجل على حسب دينه. Chaque personne est éprouvée par Allah en fonction de son degré de foi. فإذا كان في دينه صلابة فَإِذَا كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَ زِيدَ فِي بَلَائِهِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Si le iman de cette personne, si la foi de cette personne est solide, alors l'épreuve qui va venir sera également beaucoup plus lourde. il y a plus on est fort, plus on a iman, plus Allah Ta'ala éprouve la personne. Alors on peut se demander, ben, si on a iman en Allah, d'accord? Si on fait notre salat, on fait nos actes d'adoration comme il le faut, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il va nous éprouver? Est-ce qu'il y a des péchés encore à tirer de nous? Les ulama disent que quand Allah Ta'ala éprouve quelqu'un, il y a trois choses qui se passent. Allah Ta'ala donne à cette personne une quantité de bonnes actions. En plus de cela, Allah Ta'ala enlève des péchés du compte de cette personne. Et troisième chose, Allah Ta'ala augmente le degré de cette personne. Un tel point qu'une personne va atteindre un degré tellement élevé auprès d'Allah par l'intermédiaire des épreuves, des difficultés, de la maladie ou d'autres musriba, il va atteindre ce degré que jamais il n'aurait pu atteindre par ses actions. C'est-à-dire, si on devait compter sur nos actions uniquement, notre salat, notre Ramadan, notre tilawat al-Qur'an, jamais on n'aurait atteint ce degré. Donc Allah Ta'ala, c'est comme si qu'il nous donnait un coup de pouce, hein, passez-moi l'expression, c'est comme si qu'Allah Ta'ala il a envoyé ses épreuves. Pourquoi? Avec sa hikmah, sa sagesse, c'est quoi? C'est d'augmenter notre degré, d'enlever nos péchés et de nous donner en quantité de bonnes actions. Et Allah Ta'ala aime éprouver une personne pour voir est-ce que vraiment cette personne, hein, elle a iman en Allah et elle accepte ce qu'Allah Ta'ala a décidé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ » Dans ce verset, Allah Ta'ala dit qu'il vous éprouvera. Allah Ta'ala va éprouver l'homme afin qu'Allah Ta'ala il sache, eh bien Allah il sait mieux, qui parmi nous ils font des sacrifices, des efforts, qui parmi nous ils font preuve de patience. Sachant que la personne qui a atteint le degré de patient, Allah Ta'ala dit le Coran, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Qu'Allah Ta'ala, il récompense les patients, les gens patients, sans compter. Pour n'importe quelle bonne action, il y a un quota de thawab, de bonnes actions, de récompenses. Mais pour la patience, ça c'est illimité. Allah Ta'ala, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand vous avez un problème de votre vie, que ce soit en rapport avec madame, avec les enfants, avec le travail, avec votre condition sociale, avec n'importe quelle catégorie, la maladie, le problème de santé, quel que soit le problème que vous avez, si vous savez faire preuve de patience, vous ne remettez pas en question ce qu'Allah a décidé, et que vous vous dites que Allah il m'éprouve pour me récompenser, ce que vous allez obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de récompense, ça c'est quelque chose d'unique, que jamais vous n'aurez pu atteindre par vos actions. Donc on comprend quelle est la sagesse d'Allah lorsqu'il éprouve quelqu'un, et on comprend pourquoi Allah Ta'ala il a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était l'homme, la créature la plus aimée par Allah. Regardez, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Allah Ta'ala avait dit, « Wallahu ya'asimuka minan nas » Allah Ta'ala il protégeait le prophète. Abu Jahal, Abu Lahab ne pouvait pas faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, avant de mourir, Allah Ta'ala il éprouve, et dans d'autres situations de sa vie, à Uhud, hein, à Taif, lorsqu'il était ensorcelé, lorsqu'on lui a donné de la nourriture empoisonnée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé à plusieurs reprises, mais ces épreuves-là, il y a une sagesse énorme à travers cela. Et lorsqu'Allah éprouve quelqu'un parmi nous, n'importe quel musulman, c'est pour le même but, pour la même sagesse. Alors là, nous voyons maintenant la réaction de Fatima, radiallahu anha. Elle a dit, « Wa karba abata !» Elle se plaignait, hein, des difficultés de son père. Elle se plaignait des difficultés de son père. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, La karba ala abika ba'd al-yawm. Ça m'a dit, oh Fatima, il fait comprendre à sa fille que ton père ne connaîtra plus de difficultés après ce jour. Il fait comprendre à sa fille qu'il va quitter ce dunya et que là il est en train d'avoir quelques difficultés, mais après ça il n'y aura plus de difficultés. Et ensuite, le hadith dit que le Prophète il regardait le haut de sa maison, le plafond, et il disait Allahumma al-rafiq al-a'la, Allahumma al-rafiq al-a'la. Il faisait ce doigt, il demandait à Allah le plus haut degré, il demandait à Allah d'être auprès de lui. Et les commentateurs disent que dans la réaction du prophète alayhi salatu wassalam aussi, il y a une leçon pour chaque musulman. Que le musulman comprenne que la mort est avant tout une délivrance pour le musulman. Notre prophète avait eu le choix de retourner auprès d'Allah ou alors de rester encore sur ce dunya. Mais il a choisi de retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que la mort pour un musulman c'est la délivrance. Pour quelqu'un qui n'a pas iman un kafir, quelqu'un qui adore autre qu'Allah, pour lui la mort c'est la fin de toute espérance. Quand il quitte ce dunya, ça va être adab sur adab pour l'éternité, punition pour l'éternité. À partir du moment où l'ange de la mort retire, arrache son âme, lorsqu'il est dans sa tombe, lorsqu'il sera ressuscité, lorsqu'il l'aura à passer sur le pouls, il tombera, il sera dans le Jahannam. Ces difficultés sans arrêt. Mais pour le musulman, celui qui a iman en Allah et qui a accompli les actions qu'Allah lui avait demandé de faire et qui était resté éloigné des choses haram, la mort est une délivrance. C'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, hein, il faut dire aux enfants, aux petits-enfants, aux proches, que ça ce n'est pas une catastrophe. Ça c'est la sunna d'Allah. Depuis qu'Allah a créé les premières créatures, Allah Ta'ala a toujours décidé que chaque créature doit quitter ce monde. Aucune créature n'est éternelle. Et il faut faire comprendre à ces personnes que, par exemple, ton père, ou ton grand-père, ou ta maman, ou ta grand-mère, toute sa vie, elle faisait ses salats, elle a fait son hajj, elle faisait ses ramadan, elle lisait le Coran. Maintenant, lorsque cette personne quitte ce dunya, elle va retrouver toutes ses bonnes actions auprès d'Allah. C'est le moment où elle va voir la récompense réelle de toute sa vie passée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la mort, c'est rahatun lil mu'min, c'est un soulagement, c'est une délivrance pour le musulman. Alors, on voit, les ulama disent également que Fatima, elle se plaignait un petit peu de ce qui touchait son père. Les ulama disent que on a le droit, même dans une difficulté face à la mort ou une autre épreuve, hein, de montrer un peu sa tristesse. Le fait de montrer sa tristesse ne veut pas dire pour autant qu'on n'accepte pas la décision d'Allah. D'ailleurs, la preuve, le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wasallam avait perdu son père lorsqu'il était encore dans le ventre de sa maman. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam a perdu sa mère, il était âgé à peu près, si je ne me trompe pas, il avait à peu près 6 ans lorsque sa mère est décédée. Et sa mère était décédée dans un endroit qui était entre Makkah et Madina, qui s'appelait Al-Abwa. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wasallam, avec ses sahaba, il était en voyage et il est passé près de cet endroit et il s'est arrêté auprès de la tombe de sa maman et le prophète sallallahu alayhi wasallam s'est mis à pleurer. Le hadith dit « Baka wa abkan nas ». Notre prophète a pleuré et les sahaba également, ils se sont mis à pleurer en voyant le prophète sallallahu alayhi wasallam pleurer. Dans une autre situation, le prophète sallallahu alayhi wasallam avait eu un fils qui s'appelait donc Ibrahim. Et Allah Ta'ala avait décidé que le prophète ne pouvait pas avoir de garçon. Parce que sinon, cet enfant allait devenir prophète. Et comme la prophétie s'arrêtait, il fallait que les enfants mâles quittaient ce monde. Lorsque le prophète sallam avait donc cet enfant, et lorsque ce bébé est décédé, là aussi le prophète sallam, hein, il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux Mubarak. Et là, Zahaba, il a demandé au prophète d'Allah, mais pourquoi vous pleurez? Il a expliqué que ça c'est la rahma qu'Allah, la bénédiction, l'humanisme, on pourrait dire, hein, qu'Allah Ta'ala met dans le cœur de l'homme, la tendresse qu'Allah met dans le cœur de l'homme. Donc les ulama disent que exprimer sa tristesse, quand quelqu'un meurt, qu'on pleure, ça c'est quelque chose de tout à fait naturel. On ne va pas dire à quelqu'un, non, pleure pas. Non, si quelqu'un pleure, c'est la tristesse qui sort du cœur, ça c'est quelque chose d'autorisé. Mais ce qu'il ne faut pas dépasser, la limite à ne pas dépasser, c'est quoi? C'est de remettre en cause la décision d'Allah, ou alors avoir une réaction violente, ou alors s'indigner de ce qui arrive. Et là, on va voir dans le troisième hadith. Le hadith numéro 2, le hadith est un peu long, on va lire directement en français, un hadith qui a été rapporté par Usama ibn Zayd, ibn Haritha, radiallahu anhu. Et, petite parenthèse, il est bon de préciser, est-ce que vous savez qui est Hazrat Usama? Hazrat Usama, radiallahu anhu, était un esclave qui appartenait à Khadija radiallahu anha. Et Khadija radiallahu anha l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu cet esclave Usama ibn Zayd radiallahu anhu, immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné sa liberté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté. C'était un esclave. Le prophète l'a affranchi et il a pris comme si qu'il l'a adopté, il habitait avec le prophète sallam et le prophète le considérait comme son propre fils. Et on l'appelait Habib al-Rasoul, le bien-aimé du prophète. Tout le monde savait que le prophète aimait beaucoup Usama ibn Zayd. Alors ça, c'est une leçon d'humanisme que l'islam donne aux autres communautés. Que regardez, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, quand est-ce que les autres communautés, quand est-ce que les autres civilisations ont aboli l'esclavage? Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 ou 3 siècles. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, depuis 15 siècles, là on est à Makka là, à l'époque Makki, notre prophète a montré la voie. Il reçoit un esclave en cadeau, il l'a franchi immédiatement. Ce n'est pas qu'il l'a franchi, il dit maintenant va-t'en, vis ta vie, fais ce que tu veux. Non, le prophète l'a gardé auprès de lui et le considérait comme son fils. Il s'occupait de lui comme son propre fils et il l'accompagnait le prophète partout. Ça c'est une leçon, comment notre prophète alayhi salatu wassalam agissait envers les gens. Donc, dans ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était en compagnie de certains sahaba, et une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, oh prophète d'Allah, il y a votre fille qui vous appelle. Votre fille, elle vous réclame, elle dit que, voilà, son enfant est gravement malade, et il est en train de mourir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne, va rapporter à ma fille la phrase suivante. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Traduction c'est tout appartient à Allah. Ce qu'Allah Ta'ala il reprend, ça lui appartient. Et ce qu'Allah Ta'ala donne, ça aussi ça lui appartient. Et tout ce qui existe est dans ce monde, dans ce dunya, pour un temps précis. Fais preuve de patience et garde confiance qu'Allah Ta'ala va te rétribuer. Il a fait passer ce message à sa fille. Et puis, quelque temps après, la personne revient et dit que votre fille, elle veut absolument que vous veniez. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est levé immédiatement et il est parti voir sa fille accompagné de quelques sahaba. Regardez, quel genre de sahaba était le prophète, sallam, vraiment. On essaie d'imaginer le prophète sallam entouré de telles personnes, ils vont rendre visite à ce petit enfant qui est en train de mourir. Il y avait Sa'd ibn Ubada, il y avait Mu'ad ibn Jabal, il y avait Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit. Il y avait 4 sahaba. Il y avait d'autres encore, Warijalun, et d'autres sahaba dont le nom n'est pas mentionné. Ces 4 sahaba, c'était déjà 4 montagnes. Chacun de ces sahaba représentait une montagne de foi, de iman, une montagne de connaissances, et une montagne de crainte d'Allah. C'était vraiment des exemples pour l'humanité. Regardez quel genre de personnes, hein, ils étaient avec le prophète sallam. Ils allaient voir donc, hein, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la maison de sa fille, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il s'est assis et on lui a remis l'enfant de sa main. Et le hadith dit, wa nafsuhu tuqa'qi'. Elle dit que cet enfant, il respirait, hein, c'est comme si qu'il haletait, il respirait très fort. Il a dit que sa poitrine gonflait, il se dégonflait. C'était un enfant, c'était quelqu'un qui était dans l'agonie dans les dernières minutes de sa vie. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu cet enfant agoniser, le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, il s'est mis à pleurer. Fafadat aina, le prophète, sallam, hein, il s'est mis à pleurer. Et là, Sa'd radiallahu anhu, qui était à ses côtés, il a dit, Ya Rasulallah, ma hada, oh prophète d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprenait pas pourquoi le prophète pleurait, en pensant que pleurer, ça veut dire qu'on n'accepte pas la difficulté. Le prophète a dit, Hadihi rahmatun, ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadi. Il a dit que ça, c'est la rahma, ça, c'est l'affection, la tendresse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de ses serviteurs. Alors les commentateurs du hadith, ils disent que lorsque le prophète sallam, il fait annoncer cette nouvelle à sa fille, il a dit que cette formule est une formule magique. Lorsque le prophète, il dit une phrase, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait partie de ce qu'on appelle les jawami'il kalim. Ce sont des paroles courtes, mais tellement profondes, le sens est tellement profond, qu'une personne écoute ça, la personne est immédiatement convaincue. Le prophète n'a pas fait un bayan de 2 heures de temps. C'était une seule phrase, mais une phrase qui venait de la bouche bénie du prophète sallam, cela valait tous les discours du monde. Dans cette phrase, le prophète alayhi salatu wassalam, en même temps, il encourage sa fille, et en même temps, il fait comprendre à sa fille le sens de cette épreuve, et il fait réaliser à sa fille quelle est la sunnah d'Allah, quelle est la tradition, de quelle manière Allah Ta'ala agit avec toutes ses créatures. fait comprendre à sa vie que, à sa fille, que lorsqu'Allah Ta'ala te donne un enfant, tu remercies Allah, ça, ça vient d'Allah. Et si Allah, il le reprend, ben, il ne faut pas, hein, il ne faut pas soustraire, il ne faut pas être en colère, ça, ça appartient à Allah. Cet enfant appartenait à Allah, il t'a donné. Maintenant, Allah le reprend, sache que ça, ça appartient à Allah Ta'ala. Et ça, c'est le sens profond de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'il y a une catastrophe ou il y a un décès, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi? C'est nous appartenons à Allah et c'est auprès d'Allah que nous retournons. C'est-à-dire, je suis là, c'est Allah qui m'a créé, qui m'a envoyé sur cette terre. Mais auprès d'Allah, nous retournerons un jour. C'est-à-dire que tout est dans les mains d'Allah. Taïb. Les ulama disent également que tout ce que nous possédons, notre vie, notre corps, nos biens, tout ce que nous avons, c'est Allah qui nous a donné. Et tout doit revenir à Allah, même l'argent que nous possédons. Quand quelqu'un a de l'argent, il ne faut pas qu'il croie que ça, j'ai gagné avec ma transpiration. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, « وَآتُوهُمْ مِمَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » Allah Ta'ala dit, « Donnez-leur hein, de l'argent qu'Allah vous a donné. » Ce ayat fait bien comprendre que ce qu'on a comme bien, ça aussi, ça vient de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à la fin, le prophète dit que tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, existe pour un temps précis, bien ajalim musamma, pour qu'on comprenne bien que tout ce qu'il y a de cette vie, Allah Ta'ala a déjà défini combien de temps tel être humain, tel garçon, telle fille, tel monsieur, telle madame, combien de temps ils vont vivre. Et donc, quand Allah il reprend cette âme, cette personne, il n'y a aucune nécessité d'être énervé. Si on se met en colère, si on n'accepte pas, ça ne changera en rien la situation. Qu'on s'arrache les cheveux, qu'on se cogne la tête contre le mur, qu'on se met à pleurer, ça ne changera rien parce qu'il n'y a rien qui doit être éternel sur ce dunya. Tout est dans cette terre pour un moment, pour un temps prédéfini par Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, si la personne a compris ça et elle fait preuve de patience, ben elle a réussi l'épreuve et elle sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Alors on voit à travers ce hadith, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, que le fait de pleurer, de montrer hein, sa tristesse, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas fait preuve de patience. Ça, c'est un sentiment totalement humain. Maintenant, dernier hadith qu'on va voir et puis on va s'arrêter. Le troisième cas de figure, maintenant, c'est une femme qui n'a pas eu la réaction qu'il fallait. Le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. Dans ce hadith de Anas bin Malik, il est dit que le prophète sallam, il a vu une femme qui était en train de pleurer près d'une tombe, une femme qui pleurait à haute voix près d'une tombe. Le prophète sallam dit à cette femme, crains Allah, hein, ittaqillah, et fais preuve de patience. Le prophète sallam a voulu encourager cette personne. Alors cette femme, elle était retournée, elle n'a pas vu qui était en train de parler. Elle a dit, va-t'en, éloigne-toi. En ce moment, on pourrait dire, sorte là. Elle a dit, va-t'en. Innaka lam tusab bi musibati. Dit que tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Il veut dire que, sors, laisse-moi tranquille. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je suis en train de subir comme épreuve. Et le hadith dit qu'elle ne savait pas que c'était le prophète sallam. Elle a réagi sans voir qui est en train de parler. Et le prophète sallam, il est parti, il s'en est allé. Le prophète sallam n'a pas répondu à cette femme. Et puis quelqu'un a dit, oh, a dit à cette femme, tu n'as pas réfléchi. Tu savais c'était qui? C'était Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et là maintenant, cette femme, elle a réalisé son erreur. Hein, maintenant, elle va voir le prophète sallam à sa maison. Et lorsqu'elle est arrivée, il n'y avait personne devant la porte du prophète sallam. Donc elle est entrée, et elle dit au prophète d'Allah, hein, je m'excuse. Je ne savais pas. Elle dit au prophète d'Allah, je m'excuse. Je ne savais pas que c'était toi. Et là, le prophète a dit, innama sabru inda sadmatil ula. Être patient, c'est être patient dès les premiers moments. Ça, c'est vraiment une parole profonde de la part du prophète. Il dit que le prophète, lorsqu'il a vu cette femme, il a compris que cette dame était très attristée. Et là, le ulama dit qu'on voit que le rôle du prophète, et ça doit être le rôle de chaque musulman, c'est également de se soucier de la situation de le prochain. Ce n'est pas tout que d'être à la salat, de faire nos ibadat, ça c'est une bonne chose. Mais en même temps, le musulman doit se soucier de la situation de son prochain. Que cette personne soit un membre de votre famille ou non. Même si ce n'est pas votre famille, si vous voyez un musulman dans difficulté, dans des problèmes, vous devez, si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Si vous n'avez pas de quoi l'aider, ne serait-ce encourager cette personne. Parce que innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont avant tout des frères. Tout comme on encouragerait notre frère de sang s'il lui arrivait un malheur, ben, qu'on comprenne bien que n'importe quel musulman qui est atteint par une difficulté, nous devons répondre présent, nous devons être là pour encourager notre frère. Donc c'était la réaction pour sallam. Deuxième chose, un ulama dit également, regardez, lorsque cette femme a parlé de la sorte, c'était des paroles irrespectueuses, le prophète ne l'a pas fait de reproche. Le prophète n'a pas dit, tu n'as pas honte, je suis le prophète d'Allah, avec moi tu me parles comme ça, tu dois me respecter. Non. Le prophète sallam, de un, hein, c'était quelqu'un rempli d'humilité. C'était une personne remplie d'humilité. Et puis le prophète était intelligent. Il savait que cette femme était noyée dans le chagrin. Si elle était auprès de la tombe de son fils, elle était en train de pleurer de la sorte, c'est que vraiment le chagrin le dépassait. Et donc le prophète a compris qu'il ne fallait pas faire de reproches à cette femme. Et là, les ulama disent également que lorsqu'on encourage quelqu'un, on doit essayer de comprendre sa situation. Vous voyez quelqu'un en train de pleurer ou quelqu'un attristé, il ne faut pas parler avec lui d'une manière de dire « Oui, pourquoi on pleure ?» Ou que les panas de monde n'est plus éprouvé qu'au, de monde à l'hôpital, là où il est bien et tout, sorte là, dégage, arrête de pleurer, arrête de la personne faible ou autre chose. Non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre réellement. Peut-être que l'épreuve qui lui touche, c'est vraiment trop difficile pour elle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd, difficile à supporter. Donc quand on encourage quelqu'un, ça doit être avec beaucoup de compassion et beaucoup de muhabba. Et essayer de comprendre quelle est la situation de cette personne et ne pas brusquer donc la personne. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc conseillé à cette femme d'arrêter donc de pleurer. Les ulama disent qu'il y a deux choses à retenir en plus, que pleurer excessivement, c'est déconseillé, surtout près d'une tombe. Lorsque quelqu'un est mort, un proche est mort, quand on est près de la tombe, il est normal de pleurer. D'accord? Mais pleurer excessivement à voix haute, voire même crier ou autre chose, ça c'est quelque chose d'interdit. Ça c'est haram ça. Et dans cet hadith, certaines sources, il est même dit que lorsqu'une personne est décédée, la personne morte est importunée par les pleurs de ses proches. Lorsqu'elle voit que la famille pleure, mais pas pleurer un petit peu, elle est, comme parfois il y a des femmes qui hurlent, qui s'arrachent les cheveux, qui crient, qui se frappent les joues, etc. La personne qui est décédée, elle est importunée par les pleurs de ses proches. Donc pleurer excessivement, c'est interdit, alors que comme on a vu dans les deux autres hadiths, pleurer un petit peu, être attristé, ça c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et la dernière chose hein, qu'on doit retenir, et c'est le plus important du hadith, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un est éprouvé, c'est dès les premiers moments de l'épreuve qu'il faut faire preuve de patience. Si quelqu'un a eu une difficulté dans son travail ou dans sa santé ou autre chose, il ne faut pas que la personne, elle exprime sa colère, elle crie, elle insulte tout le monde, elle casse tout. Et après, elle se dit que bon, maintenant je fais sabbat. Non, c'est trop tard. Quand on fait sabbat, c'est dès le départ. C'est lorsque le coup est chaud, c'est là qu'on doit avoir la bonne réaction. Parce que lorsqu'on a exprimé sa colère, on a dégagé toute la haine qu'il y a en nous, tout le mécontentement, maintenant c'est fini. C'est plus maintenant qu'on va faire sabbat. Là, il y a n'importe qui peut faire preuve de patience. Là, c'est plus de la patience, là c'est la résignation. Donc le musulman, lorsqu'il y a un problème, dès les premiers moments, ce musulman doit faire preuve de patience. Et on avait vu la dernière fois que la patience doit être obligatoirement accompagnée de ce qu'on appelle l'ihtisab. Lorsque je suis éprouvé, je me dis que cette épreuve-là, Allah me l'a envoyée pour une sagesse et Allah Ta'ala va me récompenser si je fais preuve de patience. Voyez? Donc on a fait trois hadiths. Hein, la prochaine fois, on va voir d'autres hadiths qui parlent de la mort lorsqu'on perd quelqu'un de proche et que la personne fait preuve de patience, que Allah Ta'ala lui accorde de pardon, on va voir ça. Et on va continuer avec quelques hadiths encore hein, sur ce long chapitre qui est la patience. Parce que comme on a dit, il n'y a rien qui peut nous apporter autant de récompenses et augmenter autant notre degré que la patience. Tout comme une personne peut faire le coufre également en manquant de patience. Si quelqu'un n'accepte pas une épreuve, il remet en question le destin, cette personne peut perdre sa foi. Ou alors dit que Allah est injuste, ce genre de choses, je ne méritais pas ça. Une personne peut perdre sa foi si elle ne fait pas preuve de patience. Tout comme une personne peut atteindre le plus haut degré si elle fait preuve de patience, comme le prophète sallam nous l'enseigne. Oma tawfiq illa billah. Jazakumullah khair. À la tente de tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah donne les qualités du prophète sallam, des sahaba, la force de iman et le yaqin, la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on fasse passer le message également à nos mères et à nos soeurs à la maison. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.